Bienvenue dans Learn More, le podcast qui révolutionne la manière d'entreprendre chez vous, en bureau, entre amis. Je suis Sébastien Mauré, business coach, investisseur en immobilier, entrepreneur depuis 23 ans et libre financièrement. Depuis plusieurs années, j'accompagne des hommes et des femmes qui veulent obtenir leur liberté financière et une relation à l'argent plus puissante et apaisée. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Nous sommes le vendredi 29 mars. J'espère que vous allez bien et je voulais déjà vous remercier d'écouter ce podcast toutes les semaines. Vous êtes de plus en plus nombreux, je consulte les statistiques et à chaque fois je vois qu'elles sont grandissantes et ça me fait super plaisir. Donc vraiment merci pour tout ça les amis et surtout n'hésitez pas à laisser des étoiles si vous ne l'avez pas encore fait ou laisser un petit commentaire, un petit avis sous votre écoute sur Spotify ou sur Apple Podcast. N'hésitez pas, ça fera toujours plaisir bien évidemment pour me soutenir à continuer puisque ces épisodes n'ont aucune vocation particulière derrière si ce n'est vous transmettre tout simplement mon quotidien, vous transmettre ma passion, vous envoyer du mindset de dingue. C'est aussi une façon d'aborder la bonne gestion financière de votre argent, soit à titre personnel, soit dans votre entreprise, vous aider on va dire. Je suis là pour, c'est cadeau, j'essaie vraiment de vous donner un maximum de valeur ici. Cet épisode d'ailleurs va être un petit peu particulier puisque c'est une interview que j'ai réalisée que vous allez écouter dans quelques instants, une interview qui devrait vraiment vous plaire. Vous allez voir ce qu'on va découvrir. Sonia qui est aujourd'hui à son 10e business. C'est quelqu'un qui entreprend depuis toute gamine, depuis 12 ans, histoire quand même assez incroyable je trouve, qui aujourd'hui vit mais très confortablement de la sous-location et qui du coup en profite pour lancer d'autres business. Je vais découvrir ça dans quelques instants, un épisode de dingue. Je vous invite vraiment à écouter cet épisode parce que là ça envoie vraiment du lourd et je pense qu'il va vraiment vous plaire et surtout qu'il va vraiment vous inspirer. Vous le savez, je démarre toujours par une introduction sur ma vie. C'est pas pour me la raconter, c'est juste que je fais tout simplement un petit bilan de ma semaine. Encore une fois, l'idée, c'est que vous puissiez vous inspirer, que vous puissiez un peu vous projeter, vous dire « Ah ouais, il fait ça, est-ce que moi, je vais peut-être pas faire la même chose ?» C'est histoire de vous, tout simplement, de vous inspirer. Donc moi, vous le savez, je suis en Thaïlande en ce moment. J'ai passé la semaine dernière, j'étais sur Phuket, donc c'était une semaine un petit peu plus détente puisque ma conjointe a ses enfants en ce moment puisque là-bas c'est les vacances scolaires, donc les enfants ne travaillent pas, donc elle avait ses enfants, donc on a passé un petit peu de temps tous ensemble, donc c'était plutôt cool. Bon, moi j'ai quand même travaillé bien évidemment, mais c'est vrai que là je crois que j'ai fait la semaine des 4 heures. Je vais vous le dire, je crois sincèrement que j'ai fait la semaine des 4 heures la semaine dernière et ça me va très bien et c'est plutôt cool et c'est ce dont je tends puisqu'aujourd'hui moi je cherche à me créer des revenus passifs. J'ai été dans l'actif, à créer des maximums de business, etc., et à bosser comme un dingue, et là je cherche plutôt à travailler beaucoup moins et aller plus sur des revenus passifs. D'ailleurs c'est pas par hasard que j'investis de plus en plus en bourse, donc je suis assez content parce que là mon portefeuille on a plus de 20% à peu près sur un an. Alors, ce n'est pas des chiffres de malade parce que le S&P 500 en ce moment est plutôt très, très haut et est porté par des entreprises, notamment technologiques, qui aujourd'hui font clairement le marché. Mais je trouve que je suis du bon arbitrage et je prends même des entreprises qui ne sont pas dans le domaine technologique et qui, justement, ont des résultats très prometteurs. Je passe beaucoup de temps là-dessus. C'est vrai, de plus en plus, j'essaie vraiment de devenir une forme d'expert, si je peux me permettre de dire ça, puisque je ne suis pas un expert en placement financier. Mais j'essaie d'avoir comme une certaine expertise sur les entreprises, parce que c'est des entreprises que je suis toutes les semaines. Donc, je regarde les bilans, je regarde aussi les avis, les conseils. J'essaie vraiment de me documenter parce que je cherche vraiment à me faire des revenus passifs avec la bourse. Je vous le dis, c'est ça mon objectif aujourd'hui. Donc, je suis en train de mettre en place toutes ces stratégies-là pour qu'à un moment donné, je puisse avoir des revenus qui tombent de manière passive tous les mois. Alors, pas de manière passive complètement, puisque ça nécessite toujours un petit peu d'arbitrage. On va vendre une action, on va racheter une autre, etc. Mais de manière assez, passive dans le sens où je n'ai pas trop d'intervention à faire. Donc, voilà un petit peu moi ce que je fais. Sur mon immobilier, j'ai appris hier que
En fait, j'ai eu une validation. Vous savez, j'ai acheté un entrepôt l'année dernière, donc je l'ai déjà acheté. Hein. Je l'ai acheté comptant en cash. Cet immeuble. Et je cherche à le refaire financer à nouveau pour envisager des travaux et faire des appartements. Et j'ai eu un accord hier. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, les conditions me plaisent pas. Il y a des trucs qu'il faut corriger, mais c'est un bon début. Et vous voyez, comme quoi, je l'ai acheté au mois de novembre. Donc, ça fait novembre, décembre, ça fait 5 mois après. J'ai eu un accord de principe. Enfin, j'ai eu un accord, hein, j'ai une lettre officielle, donc un accord de banque. Donc, sous réserve de validation de derniers éléments. Vous savez comment ça marche avec les banques. Et du coup, ils refinancent la totalité. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est la bonne nouvelle sur l'immobilier. Donc je vous tiendrai au courant, bien entendu, si ça va au bout ou pas. Ensuite, je sais que Pierre a visité une nouvelle sous-location. Donc là, c'est pareil, on en arrête une et on va peut-être en reprendre une autre. Voilà, donc on fait un peu d'arbitrage en ce moment sur nos sous-locs. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a aussi déménagé une autre sous-location, comme ça j'ai pu vous le dire la semaine dernière. Donc on a pas mal de stocks, de meubles, etc. qu'on entrepose dans un local. Donc il va falloir qu'on voit pour vendre tout ça, parce qu'il y a quand même pas mal de stocks, canapé, réfrigérateur, machine à laver, télévision. On est stocké, on a de quoi faire, on a de quoi équiper des appartements, ça je vous le dis. Il va falloir qu'à un moment donné, tout ça, ça permette aussi de rentrer un peu de cash, parce qu'on a, aussi besoin, bien évidemment, comme tout le monde, hein, on a tous besoin d'un peu d'argent. Quand vous écouterez cet épisode, hier on a fait un webinaire sur le no-code. Donc vous étiez très nombreux et c'est super cool. Et encore une fois, si vous sentez qu'il y a quelque chose à mettre en place dans l'intelligence artificielle, dans la mise en place d'une application dans votre société, dans l'automatisation de tâches type facturation, type gestion des appels de vos clients, enfin toutes ces tâches là, on va dire qui sont très chronophages, eh bien on a une formation no code qu'on a lancée avec Yod et Sharon qui sont mes amis. Eh bien on a lancé une formation et on a parlé hier soir dans un webinaire. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi et on pourra vous faire une proposition. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Qu'est-ce qui s'est passé de mon côté? C'est déjà pas trop mal quand même pour une semaine. Et des semaines qui sont peut-être un petit peu plus cool que d'autres. Mais je réfléchis. Je crois qu'on est à peu près bon et j'ai pas d'informations particulières à vous communiquer spécialement. On est en train aussi de programmer le séminaire physique qu'on va faire à Marseille au mois de juin avec les membres de ma communauté. Donc tous ceux qui ont suivi mes programmes de formation, j'ai sorti donc ma nouvelle version de la formation sous location. Je suis encore en train de rajouter des trucs parce qu'il m'en manque plein, j'ai plein d'idées qui me viennent et du coup je veux vraiment que la formation soit de la bombe atomique et qu'elle soit la meilleure du marché, et j'en suis convaincu que c'est la meilleure du marché parce que je vois pas de formation qui vous parle de sous location mieux que moi, d'intelligence artificielle, d'aménagement de vos logements, de yield management. Là, franchement, c'est de la bombe atomique. Et profitez-en parce qu'il n'est pas du tout dit qu'à un moment donné, je ne monte pas le prix. Parce que franchement, là, on a vraiment… Enfin, pour moi, vous n'avez rien d'inégalé sur le marché. Entre l'accompagnement, les lives, le contenu de la formation, des séminaires physiques. Enfin, à un moment donné, je crois qu'on est quand même là vraiment sur quelque chose qui tient vraiment la route, quoi. Après, voilà, bon, je sais que certains qui m'écoutent aujourd'hui sont déjà membres de la formation. Donc, mais je pense qu'il y a aussi des personnes qui m'écoutent qui n'ont toujours pas pris la formation. N'attendez pas, je pense que c'est le bon moment. Parce que je pense qu'on va peut-être à un moment donné monter les prix, parce que pour moi, cette formation vaut bien plus qu'elle ne vaut aujourd'hui, surtout quand je compare ce qu'il y a sur le marché. Bref, voilà. Les amis, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne tout de suite, tout simplement, sur ce nouvel épisode, cette interview que j'ai pu réaliser avec Sonia, qui est une femme formidable et qui est juste… C'est de la bombe atomique, cette Sonia. C'est de la bombe atomique. Hein. C'est une bombe atomique. Allez, sur ce, je vous laisse avec cette interview et je vous dis… à très bientôt et surtout à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao. Bonjour à tous, on se retrouve en compagnie de Sonia. Sonia, comment vas-tu?
Ça va super, et toi?
Ça va super, je te remercie. Alors Sonia, je vais vous la présenter très rapidement de ce que moi je connais. Bien entendu, elle va compléter, elle va rajouter ce qui va manquer ou me corriger éventuellement s'il y a des choses à corriger. Donc Sonia, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que c'est une pure entrepreneuse. Elle va vous l'expliquer puisqu'elle a démarré très très jeune. Et puis c'est vraiment, alors elle c'est l'entrepreneuse vraiment complète parce qu'elle ne fait que ça et on voit qu'il n'y a que ça qui la passionne au quotidien. Elle va nous expliquer, elle a plusieurs entreprises donc c'est juste incroyable, dont une effectivement, et c'est grâce à celle-ci qu'on a pu se connaître et se rencontrer, donc notamment la sous-location, et tu vas nous en reparler bien évidemment. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toi, c'est ce qui est vraiment ce qui t'a façonné, c'est vraiment l'entrepreneuriat, hein, puisque tu as démarré, je crois, très très jeune, à 16 ans ou 14 ans, je crois, tu m'avais dit. Est-ce que tu peux un peu nous réexpliquer un peu cette histoire, justement, de ton enfance jusqu'à maintenant?
Ouais, alors moi, l'entrepreneuriat, en fait, ça a été quelque chose d'évident depuis le départ. On me demande souvent d'où ça me vient. Je n'arrive pas à savoir d'où ça me vient.
D'accord. Pourquoi tu en es venu à faire ça? Est-ce que c'est parce que tu veux être libre? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est parce que tu ne veux pas de patron? Enfin, c'est quoi le truc, quoi?
Ouais, je pense qu'il y a ce truc, parce que autour de moi, donc il n'y a eu que du salariat, donc j'ai pas eu de modèle entrepreneurial où je me suis dit je veux faire pareil. Je pense que ouais, le fait de grandir dans un milieu très modeste, pour ne pas dire pauvre, plus de galérer, de voir ma mère galérer tous les mois et pas s'en sortir. Et je me suis dit, je pense plus jamais, quoi. Plus de l'avoir trimée, elle était femme de ménage, donc de l'avoir tous les jours, aller trimer au boulot et pleurnicher pour des vacances et pour une augmentation et pour ci et pour ça. Je pense que très jeune, du coup, je me suis dit, ça sera jamais pour moi.
Ça t'a marqué?
Ouais, je pense que ça a été ça le déclic.
Et est-ce que c'est pas aussi, parce que pour te connaître un petit peu depuis un petit moment maintenant, est-ce que c'est pas parce que aussi en toi, tu as une flamme créatrice?
Ouais, il y a ce truc où j'ai envie de créer des choses pour faciliter la vie des gens. Donc ça, depuis toujours, des astuces, des bricolages. Ouais, il y a ce truc où j'ai envie de créer. Mais je pense qu'au tout départ, c'est vraiment le fait de vouloir...
Ouais, tu as eu un choc.
Ouais, créer de l'argent pour m'en sortir et pas vivre dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Je pense qu'il y a quand même vachement ça, quoi.
D'accord,
et puis cette difficulté aussi à accepter l'autorité. L'autorité, la hiérarchie,
ma mère, t'es
pas du tout autoritaire, elle savait pas être autoritaire. Et du coup, j'ai jamais appris à recevoir, entre guillemets, pas une éducation, mais des ordres, un cadre, etc. Donc c'est vrai qu'à l'école, c'était très compliqué de rendre les devoirs, tout ce qu'on me disait de faire par obligation que je n'avais pas décidé.
T'es une rebelle.
Ouais, j'étais une rebelle.
La rebelle, j'adore. J'étais rebelle aussi, donc ça va. Je comprends très bien.
On est l'équipe de rebelles. Ouais.
Non, je comprends très bien. Donc, du coup, tu as commencé par quoi au début? Ça s'est passé comment? Tu as fini tes études? Tu fais quoi? Enfin, il s'est passé quoi?
Alors, ça a commencé très tôt. Donc, j'avais 12-13 ans. Mmh. Je bricolais sur internet, c'était les débuts d'internet et tout, et j'ai découvert un fournisseur chinois, l'ancêtre d'AliExpress. et en fait je me suis rendu compte que y avait plein de produits, notamment les téléphones de l'époque qui étaient des authentiques et pas des contrefaçons, à l'époque c'était les vrais, qui étaient beaucoup moins chers sur ces plateformes là donc je me suis dit, en fait il y a quelque chose à faire, je peux créer une boutique en ligne, un Facebook, que sais-je, pour essayer de proposer ces articles en France et du coup les faire livrer directement du fournisseur au client sans transiter par moi, comme ça ma mère ne voit rien, j'ai pas de stock chez moi et c'est nickel. Ça s'appelle le dropshipping aujourd'hui, mais bon, je te parle de ça il y a plus de 17 ans, quoi. Donc du coup ça n'avait pas de nom, quoi. Donc je me suis dit, bon, on va essayer comme ça. Alors bien sûr, de façon totalement archaïque, hein, on déclare rien, on fait un site, une page de vente sur eBay à l'arrache, pas professionnel, et puis go, quoi. Donc ça a très bien marché.
Cool.
Ça a très bien marché parce que
j'avais quel âge?
Là, j'avais dit 12 ans, mais je le dis jamais parce que
dingue. Et moi, la première fois qu'on s'était vu, tu m'as dit ça. Je me dis, mais j'ai qui en face de moi là?
Ouais, 12 ans, je le dis pas souvent. Tu vois, j'ai fait une interview il y a 10 jours parce que je me dis, en fait, c'est incroyable. Je me dis, mais j'avais déjà ce truc.
Mais c'est clair, hein, mais t'as ça en toi, Sonia.
Je dis 15 ans, du coup. Je dis 15 ans parce que ça paraît déjà
plus. Oui, tu dis, c'est pas possible. Les mecs, ils vont jamais y croire aux 12 ans, quoi.
C'est ça. Mais la réalité, c'est que ça a commencé à 12 ans, cette histoire. Et donc j'ai prolongé ça sur plusieurs années. Ça me faisait pas mal d'argent de poche. poche. Puis j'évoluais en fonction des modèles à la mode de téléphone, les coques aussi de téléphone, c'était très actuel.
Oui, bah moi ça me parle bien ça, pour avoir fait là aussi, ça me parle très très bien. Ouais.
C'était assez esthétique, on changeait les coques, on changeait tout, quoi. Donc il y avait beaucoup d'accessoires qui se vendaient là-dessus. Donc j'ai fait ça pendant un bon moment, ça me faisait de l'argent de poche. Et puis après, eBay a commencé à créer les vraies boutiques professionnelles, où là, c'était obligé de s'enregistrer avec un sirène, etc. Et c'est là que j'ai commencé à lâcher ça, parce que je ne voulais pas m'immatriculer. Moi, ça m'allait très bien, mon petit business au black. Du coup, c'est après qu'il y a eu la concurrence qui a commencé à arriver. Là, des gens qui avaient vraiment des gros moyens, des professionnels, qui avaient des gros stocks, des prix négociés. Et là, ça a commencé à me faire sauter mon marché.
Oui, OK. Ouais. Et donc là... on arrive vers quelle année là ? Tu avais quel âge ? Qu'est-ce qui se passe ?
J'avais 15-16 ans. 15-16 ans quand j'arrête de faire ça, ou je le continue, mais en pointillé, rien de bien sérieux. Mmh. Et du coup, j'enchaîne sur ce qui est mon deuxième business, qui part d'un besoin personnel. Moi, je suis d'origine africaine, j'ai les cheveux très frisés. Et ma mère étant blanche, c'était l'enfer pour elle de traiter des cheveux comme moi. Ça n'avait pas les démêlés, c'était les crises de nerfs, les larmes, les machins. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Toutes celles qui ont des origines connaissent l'histoire. Donc, on cherchait des solutions pour raidir les cheveux. Et il n'y en avait pas à l'époque, à part des frisages qui sont très agressifs pour la peau et le cuir chevelu. Donc, ça n'existait pas. Donc, pareil, en cherchant sur Internet, je trouve qu'un nouveau système qui s'appelle le lissage brésilien, je le trouve disponible uniquement au Brésil, ça n'existe pas en France. Et j'y vais au culot, je contacte la marque directement par mail au Brésil, ça s'appelle Cadiveo, c'est l'équivalent de L'Oréal au Brésil. Et du coup, je les contacte et en fait, je suis tombée sur un commercial, mais super sympa, qui m'a envoyé un échantillon pour tester, pour une tête pour moi, quoi. Et avec la notice, la vidéo et tout, pour pouvoir le faire chez moi, mon domicile, avec ma mère. Donc, nous voilà en train de tester les produits sur les cheveux. Et là, incroyable. J'ai les cheveux lisses, je les rince, je prends la pluie, j'ai les cheveux lisses, quoi. Moi qui ai les cheveux depuis 15 ans, hyper frisés et vraiment très, très, très frisés pour le coup. Et là, je me dis, mais je tiens un truc. Donc, direct, ça ne fait qu'un tour dans ma tête. Je me dis, bon, déjà, j'ai trouvé une solution pour moi à titre perso, mais c'est aussi une solution pour la terre entière, là, pour toutes les nanas qui galèrent comme moi. Donc, en fait, je commence à le faire aux copines, pour commencer. Donc, je commande d'autres produits à ce fameux fournisseur. Je commence à le faire aux copines, où je facture juste le produit, donc je ne fais pas clairement de bénéf. Et puis en fait, ça prend une ampleur. Les copines des copines me ramènent les copines, machin et tout. Donc toujours au black, on est toujours très légal. Et en fait, ça prend une ampleur folle, à tel point que je ne vais plus à l'école. Donc je commence à zapper des heures de cours et tout pour faire mes lissages, etc. Je commence à prendre du bénéfice sur ça. Je commence ensuite à mettre une petite annonce sur le bon coin avec une photo avant-après des cheveux de mes clientes, de moi et tout. Donc, le truc hyper parlant, donc ça cartonne. Et le truc qui a vraiment fait exploser, et là, j'ai dû m'immatriculer, c'est que j'ai fait une pub dans le petit programme télé local qui, nous, à l'époque, c'était dans la ville de Tours. C'était la référence. Tu vois, c'était le truc que tu attendais tous les 15 jours et tu avais le catalogue et dedans, tu avais toutes les réductions dans les restos, les instituts de beauté, machin. Et donc, j'avais fait une parution pour mes lissages et j'avais mis photo unique en France, lissage brésilien, avant, après. Et en fait, le jour, je me rappelle, c'était un lundi où la parution est apparue. Moi, je travaillais, donc j'étais en alternance parce que j'ai fait des études de comptabilité de base. Donc, je faisais mon BTS en alternance, j'étais en entreprise. Et là, je vois mon téléphone qui se met à sonner, mais toute la journée, quoi. Et là, je me dis « Waouh, délire !» Et en fait, je reprends les appels à ma pause, etc. Et c'était des nanas qui prenaient des rendez-vous pour que j'aille chez elles leur faire le lissage brésilien. Et là, en fait, ça a été le début d'un truc, mais de malade. J'étais en BTS, du coup.
J'ai une question par rapport à ça. Pourquoi c'est toi qui devais le faire ? Pourquoi tu leur vendais pas le produit et c'est elle qui le faisait toute seule ?
Parce que c'est très compliqué à se faire toute seule. Moi-même, c'est ma mère qui me le faisait à titre perso. Okay. Assez compliqué.
C'est cool de faire des ventes et tout, mais ça te prenait quand même tout ton temps, quoi.
Ben voilà, le problème, c'est que je pouvais plus aller en cours parce qu'au départ, je les plaçais sur les week-ends, les soirées,
au bout d'un moment.
C'est ça, ça dure 3 heures en plus, un lissage à faire, 2-3 heures, donc c'est quand même
longtemps
de la personne.
Au bout d'un moment, tu n'as plus de vie, tu passes ton temps à faire ce genre de choses, quoi.
Mais c'est ça. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est facturé aux alentours de 100 euros. Donc, bah, du coup, je commence à placer des rendez-vous pendant mes heures de cours. Les cours que j'estimais inintéressants, j'y allais pas. Et donc, du coup, j'allais faire mes lissages. Donc, là, je commençais à taper des 3-4 000 euros par mois à 17, 18 ans, quoi. Donc, là, ma mère, elle m'a dit, par contre, c'est plus possible. Il va falloir... Enfin, j'avais du cash de partout. Elle me dit, là, il va falloir déclarer, en fait. Elle me dit, c'est une vraie petite entreprise, ton truc. On ne peut pas rester comme ça, tu vas te faire pincer. Bien et sûr. C'est là, 2008, donc ouais, j'avais 16 ans, que le statut d'auto-entrepreneur est sorti. Et donc, du coup, bah, on s'est renseigné. Et donc, bon, c'est ma mère qui a dû me faire une autorisation parentale parce que j'étais mineure. Mais du coup, j'ai créé ma première auto-entreprise de lissage brésilien là-dessus, quoi. Donc, voilà.
Génial.
Ouais, franchement, c'était...
Alors, ça a duré combien de temps, cette activité-là ?
Eh bien, j'ai commencé mon tout premier lissage, je l'ai fait à 15 ans, et j'ai arrêté après mon BTS, je pense, donc vers 22 ans.
Ah ouais, donc ça a duré un paquet d'années, quoi.
Ça a duré super longtemps. Il y a eu des moments où j'ai arrêté parce que ouais, bon, c'est très prenant, les études et tout, donc je faisais des pauses. Donc là, mes clientes, c'était la panique parce que c'est quelque chose en plus qui est très smart, il faut le refaire tous les 3 mois. Parce que forcément, t'as les cheveux qui poussent. Et les cheveux, ils poussent comment ? Ils poussent frisés. Donc, du coup,
il y avait une liste d'attente, quoi. Il fallait prendre. C'était donc, ouais. Médecin, quoi.
Quand tu chopes une cliente, en gros, tu sais que tu l'as tous les 3 mois. Donc, ouais, donc c'est un business hyper smart. Donc ouais, j'ai eu des moments de pause, mais ouais, ça a duré.
Donc, ça cartonne, tu fais de l'argent, c'est cool, tu t'épanouis, c'est sympa, tu finis tes études, etc. Ok. Et donc, tu arrives à tes 22 ans. Et pourquoi tu arrêtes ? Qu'est-ce qui se passe là, dans ta vie, là, à 22 ans ?
Alors, déjà, bon, le lissage brésilien, à l'époque, c'était des produits où il y avait de la contenance de formol. Donc, c'est des substances qui sont assez toxiques. C'est ça qui permet aux cheveux d'être lisses. Et du coup, je commençais à avoir des problèmes un peu respiratoires. C'est-à-dire, ouais, je commençais à avoir des problèmes respiratoires, donc à être essoufflée tout simplement plus facilement, à avoir des problèmes un peu de peau. C'est des produits qui sont quand même abrasifs. Donc pour la cliente qui vient une fois pendant 3 heures, il n'y a pas de souci. Mais moi qui en faisais 2-3 par jour, ça commençait à devenir assez agressif pour mon corps. Et de plus, c'est très fatigant de faire du domicile. Il faut alimenter les conversations, il faut parler aux gens. Les gens chez eux, c'est compliqué. Ça va nourrir le bébé, ça va changer la couche, ça va machin, ça s'arrête. En fait, t'avances pas, quoi. Donc, bon, il y avait le côté business aussi. Et surtout, le lobby de la coiffure qui commençait à pas être content. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est moi qui ai apporté ce concept-là en France. Mais c'est les coiffeurs qui ont commencé à faire chier, à dire, bah, elle, en fait, c'est pas une coiffeuse. Donc, elle a pas le droit de faire ça. Donc, j'ai commencé à avoir des problèmes avec les lobbies, la chambre des commerces qui commençait à s'intéresser à ce concept qui arrivait au fur et à mesure en France. Donc, j'ai préféré arrêter. Ça faisait déjà 6 ans. J'avais fait le tour et ça m'épanouissait plus.
D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe là, du coup ? Est-ce que c'est la Sonia entrepreneuse qui prend le dessus ou est-ce que c'est la Sonia bah, toujours salariée, il faut rentrer de l'argent ? Il se passe quoi ?
Du coup, en parallèle, j'avais commencé à redévelopper des business en ligne de vêtements. Donc, j'ai eu 3 boutiques séparément. Donc là, toujours pareil, sous forme de dropshipping, mais pas que. Il y en a eu 3. Donc, il y a eu une boutique de vêtements pour bébés, une boutique de vêtements pour femmes et une boutique de lingerie pour femmes aussi. Ouais. Donc, ça marchait bien aussi. Là, pour le coup, ça tournait vachement sur Facebook. Donc, ouais. Ça me permettait de continuer à avoir des revenus et ça m'a permis doucement d'arrêter les lissages.
D'accord.
Donc, après, j'ai embrayé là-dessus.
Ah, donc comme là vous pouvez tous le constater, on a vraiment une sérieuse entrepreneuse puisqu'elle est, elle est vraiment ouverte sur tout, elle est prête à vraiment y aller franco sur l'entrepreneuriat, donc ça c'est vraiment cool. Et alors là du coup, donc ça c'est ce qui devient ton activité, vendre sur ces différents, enfin ce e-commerce là, ça devient ton activité principale.
Ouais, sachant que moi, je suis toujours en alternance, hein, donc en comptabilité, donc je suis dans une très bonne entreprise, donc bon, ça se passe pas très bien parce que c'est du salariat, mais en parallèle, ouais, bah, en fait, moi, à cette période-là, je suis encore chez ma mère, je suis tranquille, quoi, j'ai pas trop de frais, c'est de l'argent de poche, tout ce qui rentre, hein. Donc ouais, c'est 3 business, donc j'en parle en même temps, mais ils ont été séparés, hein, je les ai pas eu en même temps.
D'accord.
Donc c'est pour ça, c'est business 3, business 4, business 5, mais oui, ça m'a permis vraiment d'avoir une bonne source de
Ok.
rémunération. Après, ce qui me plaisait, les fiches produits, c'est beaucoup de travail de compléter tous les fiches produits, gérer les SAV, les retours, les défauts de vêtements, etc. Ça reste made in China. Enfin, c'était trop de travail. Moi, il y a vraiment ce ratio où il faut qu'il y ait peu de travail et grosse rentabilité. Et pour le coup,
oui, bah, c'est pour ça qu'on va arriver au sujet qui nous concerne, justement.
Ouais.
Ok, donc après, il se passe quoi ? Parce que je sais qu'il y a encore eu d'autres choses. Donc, il s'est passé quoi après ?
Donc, ouais, c'est business donc de...
Ça ne s'arrête jamais, Sonia. Ça qui est bien, ça ne s'arrête jamais.
Ouais, c'est une boucle. J'ai fatigué plus d'un homme. Hein, et plus
je pense.
Donc, ouais, une lassitude d'être derrière le PC, de faire des fiches produits, etc. Et là, je me dis, bon, j'ai envie d'intégrer une franchise. J'ai envie d'être dans un réseau, dans une marque. Et au moins, là, il y a une tête de réseau qui me donne le mode d'emploi. Et moi, je suis bêtement, comment faire ? Donc, je me rends au salon de la franchise sur Paris. Je dois avoir 23 ans. Je vois plein de... Bah, je découvre un monde incroyable de franchises. Il y a peut-être déjà été. C'est incroyable.
Ouais, c'est énorme.
T'as envie de tout créer. T'as envie de créer un... T'as envie d'ouvrir un Burger King. T'as envie d'ouvrir une boutique de fringues.
Il y a du fric à faire de partout.
Ah ouais, il y en a de partout. T'as envie de tout prendre. Donc, je passe une journée là-bas et je découvre... mon attention se pose sur une marque de d'épilation définitive à la lumière pulsée. Donc ça, pareil, ça n'existait pas. Hein, les Depiltech, tout ça, il n'y en avait pas. Moi, j'ai habité entre-temps un peu en Allemagne et il y en avait. Et c'est vrai que ça cartonnait en Allemagne et je m'étais dit, purée, en France, il faudrait qu'il y ait ça. Il n'y avait que le laser proposé par les dermatologues. Donc, je me dis, allez, go. Je me lance dans la franchise avec eux. Donc du coup, je commence l'aventure. Ils ont déjà 35 instituts en France. Donc, c'est une marque solide à laquelle je fais confiance. Et du coup, je suis le 37e institut à ouvrir sur la ville d'Angers. D'accord. Je ne pouvais pas ouvrir sur la ville de Tours parce que c'était déjà pris et qu'on a l'exclusivité du territoire. Donc, je me suis beaucoup formée auprès du franchisé de Tours qui m'a fonctionné super bien. Et du coup, je me lance sur la ville la plus proche qui est Angers.
Okay.
Et donc là, grosse aventure parce que c'est mon premier business en physique, pour un local commercial en plein centre-ville, de la com. Je suis obligée d'embaucher pour la première fois. Parce que bah, je ne suis pas esthéticienne, je n'ai pas le droit de toucher l'être humain. Donc, du coup, je prends une esthéticienne diplômée et l'aventure commence. Donc, c'est une très belle aventure. Tu as tout l'encadrement de la franchise qui fait qu'il y a une euphorie collective. Tu as des collègues aux quatre coins de la France et tu te dis, ouais, ça va être génial. On fait des galas, des séminaires, c'est hyper encourageant. Sauf qu'en fait, on s'est tous écroulés quasiment en même temps parce que le business plan n'était pas du tout correct. On avait des charges très élevées, donc notamment de devoir embaucher quelqu'un directement. La machine était une location-vente qui coûtait plus de 1 200 € par mois. La redevance, les royalties. En gros, moi, j'étais pas, pourtant, je suis comptable, hein, mais j'étais pas encore, je pense, assez calée sur le sujet pour savoir que le modèle économique n'était pas bon. Et pas de chance, le jour où j'ai ouvert, en fait, 2 jours avant, il y a Depiltech qui a ouvert à une rue d'écart de moi à Angers également. Donc, Depiltech, c'est le leader sur le secteur. Moi, j'étais le deuxième. La marque était la deuxième. C'est Limited Depil. La deuxième sur le secteur. Et du coup, on a ouvert en même temps. On est devenus assez potes après. On a échangé là-dessus. Mais du coup, on s'est fait une concurrence directe parce que 2 instituts de dépilation qui ouvrent comme ça dans une moyenne ville à une rue d'écart, ça a été très compliqué. Puis Depiltech, c'est des très gros moyens. Hein. Donc eux, au niveau de la com, c'est carré, quoi. Donc, en fait, en 1 an et 2 mois, mon institut s'est écroulé. J'ai vidé toute ma trésor, j'ai perdu 40 000 € que ma mère m'avait passé. Enfin, ça a été la descente aux enfers. Parce que, en plus, c'était des propositions de paiement plusieurs fois pour les forfaits de dépilation, parce que c'est des gros montants, c'est des 1 000 €. Ouais. Hein. Donc, avec les paiements plusieurs fois, c'est bien, mais l'argent ne rentre pas. Donc, en 1 an, j'ai coulé, j'ai crash l'institut. Donc,
D'accord.
Une 6e expérience assez chaotique. J'ai appris pas mal de choses. Par contre, ça m'a vraiment appris pas mal derrière.
T'as appris tes erreurs, hein, on le sait bien, Sonia.
C'est ça.
T'es revenue plus forte suite à cette aventure.
Complètement. Chaque business, de toute façon, c'est une leçon. Hein. À chaque fois, on revient sur la même chose. Le lissage, c'était de faire attention au lobby, à la concurrence, d'être dans la réglementation de l'activité. Oui. Le business en ligne, c'était de cravacher énormément, c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Quand c'est très chronophage, c'est pas bon pour moi. Et puis là, le fait de la franchise, j'ai vu que de faire partie d'un réseau, c'était pas toujours la solution et que le business plan, fallait bien l'étudier, qu'il fallait vraiment partir sur un scénario très pessimiste, quoi. Donc ouais, c'est parti en procédure derrière. Et tout, ça a été très loin hein, parce qu'on est quand même une trentaine à avoir fermé en 1 an. Il n'y en a que 5 ou 6 qui vivotent encore aujourd'hui, quoi.
Et alors, suite à ça, qu'est-ce qui se passe là ? Sonia s'effondre, Sonia est complètement...
Alors là, ouais, ça a été très, très dur parce qu'en plus, donc, j'étais en couple. Donc, la personne m'a suivie sur la ville d'Angers. On a déménagé sur Angers pour ce projet. Donc, lui, il a tout quitté. Donc, très compliqué moralement, plus la procédure qui se lance, les menaces, machin. Enfin, très, très dur. À l'époque, tu n'étais pas indemnisé quand tu étais entrepreneur par Pôle emploi. Donc, maintenant, il me semble que c'est le cas avec Macron. Mais du coup, à l'époque…
Je ne sais pas. D'accord.
Ouais, il me semble. Hein, je n'ai pas fait de crash depuis. Mais maintenant, il me semble que tu as le droit à quelque chose. Quand tu fermes une entreprise, tu as le droit à une indemnité chômage. Donc ça, ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, il a fallu que je trouve hyper rapidement un job alimentaire. Et coup de chance, je suis comptable, hein, j'ai un BTS plus une licence en comptabilité, donc du coup j'ai été comptable chez Volkswagen, donc là l'horreur, hein, le retour au salariat, j'ai 24 ans, après la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un bureau de compta, c'était il y a une dizaine d'années, c'était il y a 6 ans en arrière et tout, donc là t'as l'impression de faire un gros recul, tu viens de crasher une boîte et tout, donc là mais l'enfer sur terre.
Ah, t'as dû prendre cher là.
Ouais, franchement, j'étais ouais,
psychologiquement, au 8e. Tu devais être bien, ouais, bien atteinte, ouais, joie. Ouais. Très bien, ouais.
C'était costaud et le couple aussi.
Oui, forcément, je pense qu'il a dû sauter ou voilà.
Ouais, un peu tout de suite, mais ouais. Et du coup, bon, au bout de 6-8 mois, j'arrive à me relever. Je suis toujours salariée en compta. Et je fais un énième voyage à Berlin. C'est à Berlin que me viennent toutes mes idées. Hein. Moi, Berlin, c'est ma ville de cœur avec Marseille. Je me balade à Berlin, dans les rues, je flâne et je vois des hommes, des femmes dans des salles en combinaison toute noire, en train de faire des mouvements bizarres. Et ça ressemble à une salle de sport. Je me dis, waouh, mais c'est quoi ça ? C'est un truc de fou et tout. Donc, je me renseigne un petit peu et j'apprends que c'est du sport par électrostimulation. Rebelote, le cerveau s'active. Je regarde en France ce qui existe, ça n'existe pas. Il y en a très peu, c'est les kinés qui utilisent ça. Je vois qu'il y a la marque en France, mais que ce n'est pas très développé et tout. Donc, mon conjoint de l'époque, je lui dis, bon, là, j'ai trouvé un nouveau truc. Il me dit, oh là là, ça y est, elle est repartie. Il me dit, bon, écoute, tu fais ton étude de marché, tu la fais bien, et si ça te semble solide, on y va. Je dis, ok. Donc, je vais au siège social de la marque, ils me font essayer les équipements, je me rends compte que c'est génial, qu'en faisant trois fois rien, tu ressens des contractions musculaires, des courbatures le lendemain à plus pouvoir s'asseoir. Je me dis, mais waouh, c'est quoi ce produit ? C'est un truc de dingue, quoi. D'ailleurs, je t'en avais parlé, toi, pour,
oui, tout à fait.
Pour le mal de dos. Ouais.
Ouais, tout à fait.
Et je me dis, bon, allez, go. Et donc, mon ex me suit de nouveau. Et donc, on retourne sur Tours. Parce que moi, c'est Tours, la ville où j'adore faire du business. C'est une ville très intéressante, où ils sont très friands de nouveautés et où tout fonctionne très bien. Et du coup, on se lance. Donc là, je dois avoir, je sais pas, 25 ans. On lance notre salle à deux. Donc, on le fait très précautionneusement. C'est-à-dire qu'on ouvre la salle dans un petit appartement, un T2, qu'on retransforme en studio avec autorisation, bien sûr, du propriétaire et tout. On lui explique et tout. Il comprend pas bien, mais il dit, OK, bon, vous payez le loyer, pas de souci. Donc, on transforme ce petit appartement en studio d'électrostimulation avec une seule machine et en coaching personnalisé. Donc, rebelote, me revoilà à faire de la pub dans le fameux programme télé dans lequel, 10 ans avant, j'avais fait de la pub pour les visages.
Et alors, ça marchait toujours ou pas, cette publicité ?
Et ça cartonne.
Ça cartonne.
Ça cartonne. Ouais, le truc de fou.
Bonne recette.
Ouais. Alors maintenant, c'est plus l'actualité, ce programme télé à Tours, mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment le levier. Et du coup, ça cartonne à tel point qu'on n'a plus de place. C'est mon ex qui fait les séances de sport. Moi, je m'occupe de la gestion des abonnements et de la commercialisation. On n'a plus de place parce que un créneau, c'est une demi-heure. Donc, sur une journée, ça reste très limité en nombre de clients. On est obligé de déménager au bout de 4 mois d'activité et de prendre un vrai local commercial, de multiplier le nombre de machines. Et l'activité se développe de dingue, quoi. Donc trop bien. La salle actuellement existe toujours, sauf que notre couple n'a pas survécu à l'activité. Trop de pression, parler que du boulot. Quand tu entreprends en couple, donc c'est une des leçons que j'ai apprises sur ce truc-là. Quand tu entreprends en couple, c'est très compliqué parce que tu ne sors jamais du boulot. Tu manges boulot, le matin tu te lèves, tu vas ensemble au boulot, le soir tu parles de tes clients qui t'ont fait chier dans la journée, donc en fait il n'y a plus de place pour le couple. Et c'est vraiment ce qui nous a bousillés. Donc on s'est séparés Et là, la grosse erreur que j'ai fait, ça a été la belle leçon sur ce business-là, donc c'est le septième du coup, c'est que quand on a créé la salle de sport, bah moi, tu sais, je sortais d'un crash de mon institut, donc on a dit, on ne met rien à mon nom pour les financements, on va tout mettre à ton nom et on fera les modifs plus tard, mais le temps d'avoir les prêts, etc., on met tout à ton nom.
Donc en gros, si je comprends bien, quand vous êtes séparés, lui, t'as dit, bah allez, salut.
Exactement, exactement.
Ah, c'est un salopard, lui, par contre, là.
Et ouais, t'as beau être 6 ans en couple, et ben voilà. Donc, en fait, notre couple, elle est tellement bien qu'on n'a jamais remis à jour les papiers.
Toi, t'as fait confiance, tu t'es dit, je vais pas...
C'est ça. On s'est dit, on le fera plus tard, tout va bien, on rajoutera mon nom plus tard, pas de souci, quoi.
Il le vit bien, lui, ça. Pour lui, ça ne pose pas de problème.
J'ai quand même réussi à récupérer un petit bout. Donc, donc la société s'est crachée. Le couple s'est crachée. Oui. La société, elle est très bien. Du coup, comme c'est moi qui l'ai quitté, ça s'est mal passé. Donc, il n'a pas voulu me donner un euro. Donc, finalement, il a voulu prendre une avocate pour ça. Et j'ai quand même réussi à récupérer un petit billet de 10K qui est ridicule au vu de ce que générait la salle et de tout ce que j'ai fait. Parce que, bien sûr, lui n'était pas entrepreneur. C'est moi qui ai tout créé de A à Z, hein, la marque, machin. C'est moi qui lui ai créé le bébé, hein. Lui, il s'est mis dedans, il est devenu entrepreneur via mon expérience, mais c'est pas grave, le bon Dieu me le rendra. Il exerce toujours, la salle de sport existe toujours, je regarde de temps en temps, il a des salariés, donc voilà, hein, si tu me regardes, j'espère que tout va bien et de rien, c'est cadeau. Et donc, j'ai pu récupérer que 10K de ce litige, quoi. Et donc, la leçon, c'est, même si on s'aime très fort, on fait les papiers en règle. Ouais, et ça vaut pour tout. Les reconnaissances de dette.
C'est comme une association. Quand tout va bien. Mais dès qu'il y a un problème, les discours changent, en fait. Et tu n'es plus dans la même énergie. Tu n'es plus dans la même... Tu vois, c'est...
Il y a plus ça, en fait.
Il y a plus aussi des questions d'ego, de rancœur, de...
Ah, mais exactement. Là, j'avais un autre homme en face de moi. Hein, donc clairement, ouais, voilà. Il faut vraiment se protéger de ça, même quand tout va bien. Et ça vaut pour les mariages. Hein.
Il faut prévoir le scénario catastrophe. Même en mariage, c'est un cas de catastrophe, on ne s'aime plus. Enfin, tu vois, voilà, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ?
Exactement. Donc voilà, c'était la leçon pour ce truc-là. Et au final, les 10K m'ont été très utiles parce qu'ils m'ont permis de prendre ma première sous-loc.
On arrive au sujet qui nous a permis de nous rencontrer, quoi.
Ouais, exactement. Donc en fait, l'histoire a commencé un petit peu avant qu'on se rencontre. En parallèle de la salle de sport, en fait, moi, j'avais commencé à faire de la sous-loc. Sur une idée qui m'était venue comme ça, mais de façon totalement archaïque. Hein. C'est-à-dire que j'ai pris un logement à la location en disant au propriétaire que j'allais le louer et dedans, je faisais de la location courte durée. Donc vraiment, j'ai demandé l'autorisation à l'agence qui m'a dit « Oui, le propriétaire s'en fiche du moment que vous payez le loyer. » Et voilà, je suis partie roule ma poule là-dessus. Donc ça, c'était en 2018. Mm-hmm. Donc ça faisait 3 ans qu'on avait la salle de sport. Mm-hmm. Donc, du coup, j'ai commencé comme ça, mais j'en ai fait qu'un seul de logement et ça me ramenait un petit revenu, je ne sais plus, de 500-600 euros par mois de façon, pareil, hyper bancale et pas du tout réglo. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'a commencé l'histoire de la sous-loc. Après, la séparation avec la salle de sport, ciao. Moi, j'ai toujours cet appartement en sous-location sur Tours, mais je pète un plomb après l'histoire de la salle de sport. Je ne supporte plus de me balader dans les rues de Tours, je croise mes clientes partout, je n'ai plus envie. Donc, je décide de partir sur la ville de Bordeaux. Rien à voir, il y avait une école de danse, moi je suis danseuse, donc une école de danse là-bas que j'aime énormément, donc je suis partie vivre à Bordeaux sur un coup de tête et on arrive en 2020 et bam, le confinement, mars 2020 et du coup je tombe sur une annonce pour ton webinaire en ligne parlant de la sous-location, mais professionnelle. Le petit mot que j'avais pas ajouté à ce que je faisais actuellement, quoi. Donc je me dis, mais ouais, c'est vrai qu'on peut le faire de façon professionnelle, je savais pas. Moi, ça fait 2 ans que je fais celui de Tours de façon hyper bancale. Vas-y, je m'inscris sur ce webinaire. Donc, je te découvre sur ce webinaire gratuit en plein confinement. Et du coup, je me dis, mais what? Mais en fait, ça a l'air incroyable. Et ce que je fais, c'est pas totalement illégal, quoi. Faut juste ajuster et c'est bon quoi, et je peux le faire de façon multipliée et que ce soit rentable. Et puis moi j'avais déjà mon exemple de mon logement depuis 2 ans qui crachait.
Donc, tu savais que ça marchait.
Mais voilà, donc je savais que ça marchait. Donc je me suis dit, là en plus, je vais récupérer le bail donc qui est officiel et légal. Je vais avoir toute la réglementation de l'activité pour être dans les clous. Donc go quoi. Bah ouais, mais en fait, go de rien du tout parce que ma meuf, t'es confinée. Il ne se passe plus rien. Donc bah, tu vas attendre sagement. Ta formation, je l'ai torchée en 5 jours, je crois. Je ne dormais pas. J'ai fait tous les modules. J'ai fait tous les modules en 5 jours, c'était réglé l'histoire. Et en fait, j'étais méga prête, mais je pouvais rien faire. Je pouvais rien faire. Et c'était
bouillonnais, là.
Ah ouais, non, franchement, mais la frustration. Je me rappelle plus à l'époque, c'était les tout débuts. Il n'y en était pas beaucoup sur le groupe Facebook.
C'était au tout début.
Il y avait un groupe WhatsApp à l'époque, donc il n'y avait personne. Donc on était tous méga chauds, mais on était tous surtout confinés, quoi. Donc, j'étais dans les starting blocks, prête à démarrer, et c'était terrible, quoi. Et après, on a été déconfinés en mai, il me semble.
C'est ça.
Un truc comme ça. Et du coup, bah là, go, chasse aux propriétaires pour trouver les premiers biens. Donc, ça a
8e business.
8e business, du coup, la sous-loc. Donc, j'immatricule l'entreprise, of course. Et 8e business, la sous-loc. Et là, ça a été. Bah, en fait, c'était les glorieuses. En plus, on était les premiers à faire ça avec toi, grâce à toi et tout. Donc, il y avait tout à faire. Alors, le plus dur, c'est de convaincre les propriétaires, parce que pour le coup, ils ne connaissaient vraiment pas du tout. Maintenant, c'est mieux. Mais à l'époque, il fallait les convaincre. Donc ouais, moi je crois que j'ai mis 3 mois à trouver mon premier bien, ouais, août 2020.
Oui, je m'en rappelle.
Mon premier bien sur Bordeaux. Ouais. D'ailleurs, tu m'avais aidé, je me rappelle, pour le site internet, tu m'avais autorisé à utiliser des biens à toi, enfin le truc de fou. Et puis voilà, après, ça a été le défilé. Une fois que tu chopes ton premier bien, bah, après, il te recommande. J'ai eu le frère de ce propriétaire qui m'en a passé un, et puis go. Et puis, bah, voilà, quoi. Après, je me suis vite lancée sur les logements à thème. Donc, j'ai essayé de mettre des accessoires intéressants. Donc, c'est bien parce qu'en fait, la formation, elle a aussi évolué en parallèle de mon expérimentation. Donc, on a testé les jacuzzi, mettre des billards, des saunas, des trucs comme ça dans les logements. Donc, moi, je me suis spécialisée sur ça, les logements à expérience. Et du coup, bah, les chiffres étaient juste incroyables. Je m'en rappelle.
On va faire une pause sur les chiffres parce que les gens aiment bien les chiffres, tu sais bien. Ils aiment bien l'argent. Donc, ça crache quoi aujourd'hui, ce type d'activité de sous-location-là ? Tu as combien d'appartements ? Combien tu fais à peu près en moyenne ? Voilà, une moyenne. Hein, donc, ça va être un peu.
Alors, moi, je me suis arrêtée à 8. Parce que je souhaite toujours développer d'autres activités.
Ouais.
Mais clairement, si j'aurais voulu, j'aurais pu continuer à développer à l'infini. En fait, moi, je m'étais dit, je m'arrête à ma liberté financière.
Alors, tu parlais de combien, cette liberté financière ?
Et bien, du coup, moi, alors, je donne surtout la méthode de calcul parce que ce n'est pas intéressant. Ouais. Moi, ce qui va être ma liberté financière ne va pas être la vôtre.
Bien sûr, tu as tout à fait.
Ouais, voilà, ce n'est pas intéressant en fonction. Donc, moi, je calcule, en gros, mes charges fixes. Donc, mes charges fixes, loyer, etc., on est autour de 1 500 euros. Derrière, je calcule combien je veux actionner en dividendes, combien je veux mettre de côté pour des investissements divers. Donc, ça représente 1 100 euros. Et à côté, mes loisirs, donc les voyages, les coiffures, l'esthéticienne, tout ça. Donc, j'additionne ces trois catégories. Ouais, loisirs, économie et besoins vitaux, entre guillemets. Et donc, moi, cette somme-là, ça donne 3 800 euros. Donc voilà, ça dépend vraiment des personnes. En tout cas, moi, en termes de rémunération, c'est ce qu'il me faut.
Tu penses bien que tu as 3 800 euros pour vivre une vie à peu près correcte, quoi.
Ouais, enfin, même illimité, parce que pour le coup, je peux épargner, je peux voyager. Voilà, j'ai fait 12 voyages l'année dernière. Hein. Donc, vraiment, le truc large, quoi. Mais ça dépend vraiment des gens. Il y a des personnes, par exemple, moi, je ne m'habille pas en marque, je ne suis pas quelqu'un qui est dépensière. Donc, du coup, moi, ma liberté financière, elle s'atteint très rapidement. Et surtout, j'aurais pu monter avec la sous-loc. C'est juste que moi, j'ai décidé de capitaliser, de laisser de l'argent sur l'entreprise. Mais en tout cas, moi, pour être à l'aise financièrement et pouvoir me faire plaisir, c'est ce montant-là. Donc, c'est pour ça. Après, ça dépend vraiment de chacun. Moi, j'avais calculé avec la sous-loc, je pouvais monter à 7 000 euros. Enfin, avec ces 8 biens, je peux monter à 7 000 euros de rémunération.
D'accord, de rémunération. Donc là, on ne parle pas de cash flow, on parle de rémunération.
Non, je parle de rémunération. D'accord. Ouais. Sous statut de I.
Les gens, des fois, mélangent un peu tout entre le chiffre d'affaires déjà et le cash flow. Donc, le cash flow, c'est la marge, c'est la marge, on va dire. Mais là, c'est vraiment en rémunération pure, 7000 balles, quoi.
Ouais, tout à fait. La rémunération, si j'aurais voulu, je pouvais monter jusque-là. Donc, moi, en tout cas, en termes de logement à expérience, je ne prends pas de logements qui me rapporteront moins de 1 500 euros de cash flow mensuel. C'est vraiment la condition. Bon, après, il n'y a pas de règle, hein, on ne le sait pas toujours à l'avance. Mais en tout cas, il faut au moins 1 000 euros de cash flow mensuel pour que ce soit intéressant pour moi. Donc voilà,
c'est donc, un business. Donc, du coup, 8e business. Donc, tu te lances dans la sous-location. Donc là, tu enchaînes les biens. Bon, moi, je connais un peu l'histoire, forcément. Je t'ai dit pendant un petit moment. Donc, ça t'a quand même permis de, bah, comme tu l'as dit, de voyager. L'année dernière, tu as fait 12 voyages. Donc, c'est quand même pas un voyage. Voilà. Pour connaître Sonia, je sais que c'est quelqu'un qui, du coup, a mis ça en mode complètement passif. C'est-à-dire que tu ne fais rien, si mes souvenirs.
Oui.
Non, mais c'est vrai. Tu ne fais rien.
Maintenant, c'est clair. En fait, ces logements m'en rapportent tellement, mais il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans la sous-loc comme dans la conciergerie. D'ailleurs, c'est la charge mentale.
Oui.
Et moi, l'année dernière, donc 2023, ça a été vraiment un vrai sujet où je me suis dit, je suis en train de péter un plomb. Les voyageurs, c'est fatigant.
Ouais.
Faut en être conscient. Donc, du coup, j'ai dit, c'est pas possible. Je ne peux pas être en voyage à l'autre bout du monde et gérer des histoires d'eau chaude, de papier toilette ou de code Wi-Fi. J'ai dit, c'est plus possible. Donc, en fait, j'ai décidé. J'en avais déjà mis une partie en 2022, mais en 2023, j'ai décidé de donner l'intégralité de mes logements à une amie qui est concierge, donc qui fait conciergerie, et du coup, Sabrina, et qui s'occupe totalement de mes logements. Comme ça, je ne m'occupe vraiment plus de rien et ça tourne en full automatique. Et surtout, ça va me permettre de développer d'autres business parce que la charge mentale est totalement occultée.
Donc là, en fait, pour reprendre un peu ça, là, c'est très intéressant, je trouve, cette partie-là. D'ailleurs, on avait parlé un petit peu en off juste avant de lancer la caméra. Donc, avant, tu gagnais plus d'argent. L'activité, c'est vrai aussi, c'est resserré parce qu'il y a de plus en plus de concurrence. Donc, c'est évident que les gains d'auparavant ne sont pas les gains d'aujourd'hui, bien que ça peut encore se travailler, je pense. Mais c'est aussi parce que toi, je pense, tu as aussi fait un choix de faire vraiment de la full délégation, de plus rien faire du tout. Donc, quelque part, baisser ta marge.
Oui.
Et en faisant ça, tu as récupéré du temps qui te permet de faire autre chose. Et on va y venir, bien évidemment, dans quelques instants. Tu vas nous expliquer ça. Moi, je pense que c'est aussi parce que tu as fait un choix et c'est un très bon choix, je trouve. Parce que tu aurais pu aussi rester en mode je gère encore les messages, etc. Tu aurais eu toute cette charge émotionnelle. Tu aurais peut-être gagné plus d'argent, mais au final, toi, tu t'es retrouvé pas, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a eu vraiment cet élan. Donc, du coup, l'activité, j'ai commencé depuis 2018-2020 vraiment de façon pro. Donc, il y a toute cette euphorie au démarrage où tu es plein d'énergie et plein d'idées. Hein. Moi, j'ai fait plein, on ne s'est pas étalé là-dessus.
Mais
j'ai fait plein de projets de thématiques. Donc, j'ai quand même fait les premières Love Room, hein, même si on n'a plus le droit d'utiliser ce terme. Il n'y en avait pas sur le marché, donc il y avait tout à faire. Donc, ça a été vraiment hyper passionnant. J'ai fait des thématiques différentes dans ces Love Room. Ça a cartonné. Maintenant, il y en a beaucoup trop. Après, j'ai fait des logements Jungle. Pareil, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a beaucoup. Et j'ai fait surtout un logement Harry Potter. Donc, ça a été des beaux projets qui m'ont beaucoup plu. Et c'était hyper passionnant de suivre les artisans sur ces créations. C'est vraiment de l'artistique.
C'est artistique, en fait. Hein. C'est comme si tu étais un artiste. Enfin, pour moi, je te vois comme une artiste, si tu veux.
Complètement. Ouais. Harry Potter, c'était un truc de dingue. Hein. Ça a été 5 mois de travaux. J'étais la nuit sur mes croquis en train de dessiner des robots, des visuels, des
skills. C'était un truc malade.
Des effets spéciaux, etc. C'était vraiment un truc de dingue. Hein. Ça a été un beau projet. Donc,
tu t'es éclaté.
Ouais, voilà, je me suis vraiment éclatée. Après, il y a eu ce truc où la passion, c'est un peu. Après, je pense que toi, t'es pareil quand t'es entrepreneur, il y a ce truc d'ascenseur émotionnel. T'es à fond, ça monte.
Et après, ça redescend.
Voilà, t'as fait le tour. Je pense qu'Harry Potter, c'était vraiment l'apothéose.
Ouais.
Je ne pourrais jamais faire un logement, je pense, au-dessus, mieux, qui marche autant. Je pense pas.
Tu dis, j'ai atteint mes limites, j'ai fait des beaux trucs maintenant, peut-être qu'il est temps d'envisager de passer à autre chose. Je vais complètement déléguer, je récupère du temps, je baisse en charge émotionnelle pour justement donner toutes les possibilités mentales de pouvoir repartir sur éventuellement autre chose, quoi.
Ouais, c'est tout à fait ça. Et puis, j'en avais marre d'être avec mes amis, mais de ne pas être avec eux. J'avais tout le temps le téléphone, toujours des problèmes, les femmes de ménage qui ne font pas le ménage, machin, les voyageurs qui arrivent, qui sont en colère. Enfin, il y avait quand même toujours un problème. Et donc, j'étais réputée auprès de mes amis pour avoir tout le temps le téléphone greffé à la main. Et c'est vrai que je n'avais pas envie d'être cette personne-là. Moi, tu le sais, je suis une personne qui aime les gens. Donc, j'aime pas qu'on dise de moi que je ne suis pas là. si je suis là, quoi, et je t'écoute. Donc, ouais. Moi, il y avait vraiment ce truc où je voulais plus être chargée mentalement. Et donc, j'ai mis du temps à prendre cette décision parce qu'une conciergerie, ça a un coût. Hein. Tu t'assois sur 20% de ton bénef. Donc, du coup, j'ai mis du temps à accepter de gagner moins pour ma tranquillité. Et à un moment, en fait, je pense qu'il y a eu le truc de trop, les litiges de trop, que sais-je. Il y a eu une période où c'était trop, j'ai pété un peu.
En fait, c'est ça dans l'entrepreneuriat. C'est parce que, alors déjà, toi, tu as une histoire qui t'a fait comprendre que l'argent, bah, il faut le gagner. Tu vois, c'est dur quoi, de gagner de l'argent. Je veux dire, ça ne vient pas comme ça. Donc, le jour où tu as trouvé cette opportunité-là, tu dis putain, je ne vais pas la lâcher. Quoi. Là, pour le coup, enfin, le truc qui me permet d'avoir du temps et en même temps de gagner très confortablement ma vie.
Ouais.
Sauf qu'en fait, tu ne te rendais pas compte et tu es arrivé à une forme de palier. Et qu'est-ce qu'on fait quoi ? Est-ce qu'on accepte de baisser le palier pour mieux repartir sur complètement autre chose et tout éclater ? Ouais. Ou est-ce qu'on reste sur ce palier on est confronté à ça à un moment donné ? Et parce que tu te rappelles aussi de ce qui s'est passé auparavant, que l'argent, t'en as manqué à un moment donné, ça a été dur et tu te dis putain, j'ai quand même pas. Enfin voilà, c'est accepter de déléguer, mais pour faire quoi, quoi ? Tu vois, c'est pour faire quoi ?
Exactement. Moi, là, tu vois, Soulock 8e business, c'est le premier business qui me rapportait autant si facilement. Parce que si tu remontes, il y a eu les lissages. Mais bien là, mon temps était converti contre de l'argent. Hein. C'était 9 heures de travail par jour. Pour gagner un peu moins. Là, c'était pas le cas. Donc, c'était vraiment le premier business qui m'a permis de très bien gagner ma vie et assez facilement. Donc, du coup, c'est vrai que ça a été dur de prendre cette décision de m'asseoir sur une partie de mon bénéf. Mais en fait, j'ai été coachée, j'ai eu pas mal de remises en question personnelles. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à m'intéresser au développement personnel et à me dire, mais en fait, tout ça pourquoi ? Pour juste de l'argent ? Non. Le but, c'est quoi ? C'est de profiter de tes proches, de tes amis, de vivre des expériences, des moments, d'être heureuse. Donc, et je ne suis pas heureuse en étant au téléphone à gérer des problèmes quand je suis avec ma famille ou mes amis. Donc, il y avait vraiment cette décision à prendre et il y a eu le truc de trop où je me suis dit non, je préfère gagner un peu moins, je créerai un autre business, mais je suis heureuse, quoi.
Donc, du coup, 2023 a été l'année du déclic chez toi. Où là tu t'es dit de toute façon la Soulock je la garde parce que c'est quand même alimentaire et mine de rien c'est ce qui me permet de faire mes voyages et me permet d'avoir une vie très confortable, mais par contre je m'épanouis plus personnellement, c'est plus du tout l'épanouissement. D'ailleurs tu me le disais tu sais, je m'éclate plus en fait, c'est que pour l'argent quoi. Et c'est là où je te rejoins, c'est que quand tu fais un business que pour l'argent, moi je suis comme ça hein. Si c'est que pour l'argent, c'est mort,
ça dure pas.
Non, mais c'est terminé, quoi.
Ouais.
Et c'est là où tu as trouvé ta voix. Donc, tu as été coaché, etc. Et ça, c'est cool. Tu as trouvé ta voix. Et là, qu'est-ce que tu nous fais ? Tu nous sors en 2023 le 9e business.
Excellent. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai eu une traversée du désert. Hein, parce que dès fin 2022, je savais que je voulais créer un autre business. Donc, de fin 2022 jusqu'à été 2023, j'ai syndrome de la page blanche. Pourtant, dis-toi, je tiens un carnet depuis que je suis toute petite de tous les business que j'aimerais créer avec des business plans déjà établis. Tu vois, tous les jours de marché. Et il y en a 14 dans ce carnet et j'ai une note aussi
d'ailleurs. Carnet du coup.
Et j'ai aussi une note iPhone dans laquelle j'ai toute une liste de business où là j'ai pas encore eu le temps de faire l'étude de marché. Donc en gros, j'ai une vingtaine de business sous le coude qui sont prêts à sortir, mais que je me garde
ce carnet hein.
Ouais, il est précieusement rangé. Mais que je me garde au chaud et du coup, malgré ça, de fin 2022 à été 2023, j'ai eu ce syndrome de la page blanche. Je me suis dit, purée, qu'est-ce que je peux faire ? Sachant que j'étais dans cette démarche de développement personnel, je me suis dit, je ne veux pas faire un business juste pour le pognon. Donc, qu'est-ce qui m'anime ? Dans quoi je suis bonne ? C'est le fameux ikigai. Qu'est-ce qui rapporte de l'argent ? Dans quoi je suis bonne ? Et qu'est-ce qui peut apporter aux autres ? Enfin, tu vois, pourquoi on m'appelle ? Et j'ai réfléchi. Et là, je me suis dit, l'événementiel, en fait. Moi, j'aime les gens, j'aime créer du lien, j'aime organiser. Je suis quelqu'un de très organisé, de très carré.
Et aussi, tu as fait un petit peu tes armes, entre guillemets, avec des séminaires, des souloirs.
J'avais
quand même beaucoup plu que l'exercice te plaisait quand même plutôt bien.
Mais complètement. Moi, en fait, ma première expérience d'organisation d'événements professionnels, parce qu'après, j'organise beaucoup d'événements privés, ça a été avec toi, avec l'organisation du gala annuel de fin d'année des Souleurs, quoi. Donc, je voyais que je râlais, parce que tu sais, il faut râler pour que les gens se bougent.
J'aimais ça, en fait.
J'aimais trop. Et puis, la satisfaction de faire plaisir aux gens, de créer des moments uniques, puis de les faire se rassembler, de voir qu'ils ne sont pas seuls dans leur ville avec leur business qui tourne. ouais. Voilà. Donc je sentais que ça me provoquait quelque chose au niveau du cœur.
Ouais,
ça vibrait exactement. Et donc je me suis dit, il faut que je me lance dans l'événementiel en fait. Après, je me suis dit, quel type d'événementiel ? Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire la fête, ouais. Qui aime bien danser, machin et tout, ouais. Boîte de nuit et compagnie. Je me suis dit, bon, l'événementiel festif, pourquoi pas ? Je commence à faire mes business plans parce que maintenant, je ne fais plus rien sans business plan. Je commence à faire mon étude et tout. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas du tout rentable. On m'avait dit que ce n'était pas rentable l'événementiel festif, mais je ne pensais pas autant. Et je comprends.
Oui, on avait parlé d'ailleurs, je t'avais dit qu'effectivement, sur les événements, on ne gagne pas d'argent. Moi, quand j'en organise, je ne gagne pas d'argent. Hein. C'est purement cadeau.
Ouais.
Hein. C'est...
Ouais. Et je comprends maintenant pourquoi dans les boîtes de nuit, la bouteille de vodka, elle est à 200 balles. En fait, c'est juste là-dessus que tu peux faire de l'argent parce que le reste, ce n'est absolument pas rentable. C'est vraiment
tu perds de l'argent même.
Ouais, tu perds de l'argent généralement, ouais. Donc en fait, je me suis dit, non, ça ne va pas être possible. Je ne fais pas d'événementiel festif. Donc après, j'ai réfléchi à de l'événementiel plus corporate, plus business. Ouais. Donc, organiser des séminaires, faire venir des guests et organiser voilà, des conférences, soit de presse, soit des séminaires sur des thématiques, notamment, par exemple, pourquoi pas la sous-loc, etc.
Ouais.
Et donc là, je me suis dit, ouais, ça va être encore du pro. Et moi, j'ai envie d'apporter du développement personnel, des conversations plus profondes sur l'être humain, des connexions plus différentes lors de ces events. Et j'ai dit, en fait, je vais faire des events axé autour du développement personnel. Et après, je me suis dit, non, en fait, je vais faire des événements OK comme ça, mais uniquement dédiés aux femmes, aux femmes plutôt entrepreneuses. Après, j'aime bien dire maintenant profil ambitieuse, où elles vont avoir leur bulle, où elles vont pouvoir s'exprimer sur des thématiques où, pour en avoir fait beaucoup, des séminaires d'IMO où il y a 80% d'hommes, tu ne peux pas parler. Donc, notamment la charge mentale, la parentalité, la sexualité aussi.
Ouais.
L'entrepreneuriat a de fortes conséquences sur la sexualité du couple.
Bien sûr.
C'est des vrais sujets. Bien sûr. Et jamais je me vois en parler à un séminaire IMO comme je peux en faire... toute l'année, quoi. Je me verrais absolument pas parler de ça.
Femme aura, je pense, du mal à parler de ça devant 50 hommes, quoi, tu vois.
Bien sûr. C'est ça, c'est des sujets qui sont quand même touchy. Et du coup, je me suis dit, je vais cliver, je vais me nicher auprès des femmes. Alors, tous les jours, je me prends des remarques des hommes en me disant, pourquoi tu fais pas des événements pour les hommes, nanana. Mais en fait, c'est pas contre les hommes, c'est pour les femmes. C'est plus, moi, j'aime bien dire ça. C'est, on a besoin de décharger et de parler d'autre chose que de business. Parce que nous, notre business aux femmes, il est émotionnel. Les hommes vont plus penser sur un axe de cash flow, de rentabilité, d'acquisition client, de tunnel de vente. Ça va plus être.
Oui, c'est vrai.
Les hommes sont young. Les hommes sont young, donc ils vont à l'action, ils vont chercher des stratégies. Nous, les femmes, alors on a cette partie-là, les femmes entrepreneuses, nous sommes des femmes assez young, mais on a toujours cette partie yin, le côté féminin, où on a besoin pour acheter que ça nous parle, que ce soit émotionnel, pour vendre, d'aimer nos clients. On a besoin de ce lien, de ce côté affectif.
Le côté un peu plus émotionnel que chez un homme, quoi, c'est ça.
Tout à fait. Ouais, il y a ce côté beaucoup plus émotionnel. Et du coup, je pense que c'est là-dessus qu'on se retrouve et qu'il est nécessaire de se réunir entre nous, quoi. Donc, du coup, partant de ce constat, et puis c'est parti toujours d'un besoin personnel, je me suis dit, mais moi, je kifferais avoir des événements un peu badass, un peu girl power, où voilà, il n'y a que des femmes comme moi qui entreprennent, qui ont plein d'idées, qui ont envie de défoncer le game et de générer de l'argent, mais qui n'hésitent pas à aller faire la fête, qui n'hésitent pas à parler sexualité, à parler amitié, à parler couple, voilà, où on peut parler de tout ça lors d'une même soirée, quoi. D'accord. Pas que de business et d'argent toute une soirée.
Ouais, c'est vrai, je suis un peu d'accord avec toi, c'est vrai que c'est un peu relou, hein. Je conçois.
Toi le premier, t'es pas quelqu'un qui va beaucoup aux events,
non,
parce que
j'aime
c'est
pas trop ça.
Qui te prend mentalement.
Ça me prend trop mentalement, c'est trop orienté à l'argent et c'est pas orienté sur la vraie vie, je trouve, la vie, je sais pas comment dire, la normalité, tu vois, si on parle trop, c'est trop revenu. Moi, je peux pas, c'est trop.
Ouais.
Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'en fais très peu et c'est pour ça que je fuis un petit peu ces événements-là.
Ouais, non, mais je comprends totalement.
J'ai un côté féminin chez moi. Oui. Va savoir.
Oui, oui. Non, mais toi, tu as des yin, hein, tu as du yin. C'est pour ça que de toute façon, on est amis depuis tout ce temps. C'est parce que tu as ce côté yin où on peut parler de sujets autres que business. Et moi, j'ai vraiment retrouvé chez beaucoup d'hommes entrepreneurs, néo-entrepreneurs, cette envie de péter le game, mais de parler que de ça. Ouais. Et puis après, je ferai ça. Et puis après, je ferai une holding. Et puis après, je ferai ça. Et puis. Tu vois, tu as vraiment cette sensation qu'ils ne seront jamais satisfaits de ce qu'ils auront. Ouais. Donc non, moi, je fais tout ça parce que bon, bah, je suis une artiste, je suis une créatrice, j'aime ça. Ouais. Mais moi, le but, c'est de rendre heureux ma famille.
Oui, tout à fait. Mais je suis à 100% alignée avec ça.
C'est ça le but final. C'est qu'un outil, l'entrepreneuriat. Donc voilà, moi, il y a cette petite différence que je fais entre les hommes et les femmes de manière un peu globale et arbitraire. Mais c'est ça que.
Oui, ouais, je suis alignée avec ça, ouais.
Que je souhaite mettre en avant. Donc du coup, juillet 2023, je décide de créer Oya. En plus, j'adore ce prénom, j'ai mis du temps à le trouver. Oya. C'est la déesse africaine, donc c'est un petit clin d'œil à mes origines. C'est la déesse nigérienne de la Renaissance. Donc c'est renaître de ses cendres, renaître sous un autre aspect. Donc moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont salariées et qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent se lancer dans l'aventure. Donc voilà, c'est une renaissance. Donc voilà, j'ai même déposé ma marque parce que tout le monde me dit que c'est magnifique comme nom et avec toutes les expériences de merde
mais
que
c'est je me suis fait,
je me suis dit, je le dépose pour 10 ans.
Et ouais, un coup, est-ce que quelqu'un te le pique encore, ça ?
Exactement. Donc, et puis moi, j'ai vraiment l'âge commun, hein, tu connais, j'ai vraiment pas de chance sur beaucoup de choses. Donc voilà, je l'ai déposé et donc j'ai créé ça l'été dernier et ça cartonne. C'est un truc de
génial,
dingue.
Génial, bravo. Bravo, merci. Bravo. Donc là, j'ai envie de te dire, t'es hyper. Enfin, pour moi, t'es épanoui parce que, comment dirais-je, t'as ton business de cœur où tu kiffes ta life, tu te lèves le matin, t'es excité comme il n'y a pas. Et puis, ouais. T'as l'autre business qui, lui, est purement alimentaire et qui te permet de vivre et de continuer tes voyages. Enfin, moi, je trouve que c'est très bien organisé, quoi. Je veux dire, c'est.
Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'événementiel, c'est pas quelque chose qui est très rentable, mais par contre, c'est quelque chose qui est très nourrissant, des connexions qui se créent. Je fais des soirées, je fais des journées, je fais des week-ends, donc avec plusieurs axes différents. Et c'est vrai qu'elles connectent entre elles, elles se revoient tant sur un point amical que tant sur un point business. Il y en a qui sont même, elles ont crochet direct à une soirée, elles sont parties s'inscrire au salon de la lingerie, elles ont tenu un stand ensemble. Enfin, le truc un délire sur 3 jours, enfin, sur une rencontre, tu te dis, c'est incroyable, quoi. Il y a vraiment du business qui se crée aussi.
Génial.
Donc, c'est hyper satisfaisant. Donc, ça commence à être rémunérateur, mais bon, je suis sur ma première année, hein, donc de toute façon, c'est pas le but principal. Mais en tout cas, c'est très salvateur et très satisfaisant comme business. Tu te sens vraiment utile et ça nourrit le cœur, donc c'est différent.
Ah, c'est cool. C'est cool. Et ouais. Alors toi, justement, quels seraient un petit peu tes objectifs sur 2024? Enfin, comment tu vois peut-être un 10e business en 2025? C'est quoi le truc, quoi?
Alors, ouais. Alors, pour Oya, déjà, le but, c'est de continuer comme ça, de développer la communauté. J'ai une communauté qui est très, très, très réactif. En 5 mois, j'ai 700 personnes qui me suivent sur Insta, donc c'est énorme. Et les 700, je les connais, en fait. Je connais leur prénom, je connais leur activité, je sais où elles habitent, enfin, dans quelle région. Voilà. Donc, il y a vraiment ce truc de continuer de développer l'activité. Donc, j'accueille à peu près 100 nouvelles personnes par mois. Donc, à chaque fois, je prends le temps de discuter avec elles, leur activité, etc. Donc, ça, c'est hyper important pour moi. Je préfère m'arrêter à 1000 abonnés, mais tous les connaître et qu'elles me suivent yeux fermés pour mes events. Donc, c'est vraiment ça, développer le cœur de la communauté, la solidarité, l'engagement. C'est plutôt ça. Et donc, fin d'année, de faire un gros, gros événement en faisant venir un gros guest qui pourra vraiment solder et remercier tout le monde de leur fidélité et tout. Donc, voilà. Là, j'ai 5 événements que je suis en train de préparer en parallèle en même temps. Et donc, ouais, sur l'année, si l'année se déroule comme j'ai prévu, en gros, j'aurais fait 20aine d'événements. Donc, voilà pour Oya. Et puis, bah, le but, c'est de commencer à me faire une autre source de revenus complémentaires via ce business. Hein. Et cet été, comme c'est plus calme généralement, j'aimerais créer mon 10e business.
Ah!
Ouais.
Ah, est-ce qu'on peut en parler ou c'est encore top secret?
Alors, je n'ai pas du tout encore choisi parce que c'est toujours pareil, business de cœur, business argent, tu vois, il y a ce ratio. Donc, je pense que je vais piocher un de ma liste, ma fameuse liste que je n'ai jamais encore ouverte. Donc, je pense que je vais faire ça. Et là, j'ai décidé en fait de faire tous les ans un nouveau business. Donc, j'ai réalisé, parce qu'en fait, à chaque fois, je ne sais pas si tu as suivi dans ce que j'ai raconté, à chaque fois, tu as des business qui montent et ça redescend.
Oui, bien sûr, oui.
Comme j'ai un profil visionnaire, un peu comme toi d'ailleurs, hein, on voit les choses en avant de tout le monde, mais après, tu as tout le monde qui te rattrape, donc la concurrence qui s'installe et l'intérêt qui diminue. Donc en fait, c'est des business pas éphémères, mais qui sont très rentables, puis moins rentables. Donc on ne peut pas durer là-dessus. Donc maintenant, j'ai pris la décision de tous les ans recréer un nouveau petit business qui ne va pas me demander beaucoup d'investissement, etc., mais qui pourra me ramener entre 1 000 et 2 000 euros de revenus mensuels complémentaires. Et voilà, je vais faire ça tous les ans jusqu'à atteindre une dizaine de business différents, donc une dizaine de sources de revenus différents. Comme ça, demain, s'il y a un business qui s'écroule, eh bien, c'est pas grave. En fait, je perds 10% de ma rémunération, 5% de ma rémunération, et c'est pas un drame. Parce que le problème, c'est que quand tu te concentres que sur un seul business, que tu mets tes billes que dans un seul panier,
On a vu ce que ça donnait pour toi, ce que ça donnait pour moi.
Exactement.
Quand tu pars dans le tas, pour repartir, c'est compliqué. Hein.
C'est ça, tu te retrouves en slip. Donc, ça plus jamais. Donc, maintenant, c'est un business par an, aussi petit soit-il, c'est pas grave. Des petits trucs qui vivotent avec un. Maintenant que j'ai le truc des réseaux sociaux aussi, parce que je ne connaissais pas tout ça. Moi, j'avais un Insta perso et tout. Et là, avec Koya, j'ai vraiment appris à transformer, à travailler mon personal branding et à créer une empathie et puis montrer qui je suis et attirer des gens comme moi. Et ça, maintenant, j'ai compris comment ça fonctionnait. Oui. Et c'est des gens qui achètent chez toi, du coup. Oui. Donc, maintenant que j'ai compris comment ça fonctionne, je vais pouvoir le faire en illimité sur plein d'autres business. Et donc, voilà, un par
an. Tu vas monétiser ta notoriété, ton audience,
etc. Exactement. Ouais. Exactement. Mmh. Donc maintenant que j'ai enfin compris le truc, on apprend toujours, tu vois. Donc là, j'en suis à plus de 15 ans d'entrepreneuriat et on apprend encore des choses. Hein.
De même façon, moi, toujours, je veux dire.
Je ne sais pas tout.
À apprendre, hein.
Il m'aura fallu une quinzaine d'années pour comprendre que les réseaux sociaux, c'était quand même très magique et que quand les choses sont bien faites et que l'authenticité, ça marchait énormément.
Ouais, mais bon, t'es encore jeune, donc à mon avis, il va se passer beaucoup de choses, je pense. Il va se passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour toi, j'en suis convaincu. Écoute, c'est vraiment cool, Sonia. Comment on peut te retrouver, Oya? C'est quoi? C'est OYA, c'est ça? .fr
Sur Insta, Oya Experience, ça s'appelle. Et je suis sur LinkedIn. Sur LinkedIn aussi, je suis pas mal active. Pareil, LinkedIn, c'est nouveau pour moi depuis novembre. Et en fait, c'est un truc de dingue, quoi. Je suis fan de LinkedIn, limite plus que d'Insta, tu vois.
D'accord.
Et du coup, sur LinkedIn, au nom de Sonia Fondimar ou Oya, les deux sont dessus. On peut me retrouver sur ces deux réseaux-là, ouais.
D'accord, c'est cool. Écoute, je crois qu'on a vu pas mal de choses. Est-ce que toi, tu avais peut-être des choses à rajouter ou des conseils qu'est-ce que tu en retires de tout ça? Je sais pas, un mot un petit peu de la fin.
Moi, en tout cas, ce que j'essaye de transmettre maintenant dans mes events et auprès de ma communauté, c'est que les échecs, ils sont quand même nécessaires. Parce que moi, toutes ces mésaventures, entre guillemets, m'ont permis vraiment de peaufiner et de savoir ce qui m'épanouit vraiment. Je dis pas qu'il faut se casser la figure 40 fois pour réussir, mais je pense que je suis quand même reconnaissante de toutes ces étapes pour être aujourd'hui autant alignée et autant épanouie dans ce que je fais. Donc voilà. Et il y a aussi quelque chose que j'ai réalisé tard aussi, c'est l'importance du réseau. Je prêche pas forcément pour ma paroisse, pour mes soirées qui maintenant sont full d'ailleurs, donc maintenant je suis obligée de refuser du monde, c'est un truc de dingue, mais le réseau, mais c'est tellement important maintenant. En fait, dès que j'ai besoin de quelque chose ou que des amis à moi rencontrent des difficultés dans leur business, et direct, bim, j'ai machin, vas-y, contacte machin. Et en fait, des situations se débloquent, mais très facilement. Et je trouve ça génial. Et on pense trop, et moi je l'ai longtemps cru, qu'on sait tout en tant qu'entrepreneur, qu'on peut tout faire, créer son site internet et faire sa com et faire le SAV.
D'accord avec toi.
on se prend pour des MacGyver et on croit qu'on sait tout faire, mais non. En fait, il y a des gens qui font des études, qui font des formations pour des métiers, c'est qu'il y a des raisons. Donc, ne pas hésiter à développer son réseau et faire travailler d'autres gens qui sont hyper compétents dans leur domaine. On n'est pas compétents dans tout. Moi, je sais, par exemple, je suis très mauvaise pour vendre. Comme je suis quelqu'un qui aime les gens, j'aime pas leur prendre de l'argent. C'est quelque chose dont j'ai du mal. Et du coup, je le fais pas. Je délègue. Parce que je n'aime pas vendre. Moi, tout le monde viendrait gratuit à mes événements s'il y avait que ça. D'ailleurs, j'ai commencé, mes événements étaient gratuits. Hein. Non, mais après, j'ai commencé à bosser avec du monde. Ils m'ont dit, mais n'importe quoi, Sonia. Enfin, ouais. N'importe quoi. Ouais. Donc voilà, bien s'entourer et ne pas hésiter à déléguer. Alors oui, il y a toujours un coût, mais le jeu envoie la chandelle derrière, quoi. Charge mentale libérée et puis performance décuplée, quoi.
Génial, bah écoute, merci pour ces mots. Moi, c'était une interview très intéressante et je pense que ça a plu beaucoup de personnes qui vont écouter ou qui vont regarder cette interview, puisqu'effectivement, là, c'est vraiment pur entrepreneuriat. Vous vous rendez compte, quand même, 10 business, c'est quand même pas rien en une dizaine d'années, quoi. C'est une quinzaine d'années, c'est ça, quoi.
Ouais,
donc, voilà. Ouais. Donc, c'est quand même assez court. Et puis, à chaque fois, comme on dit tout le temps, de ces différentes aventures, Sonia est repartie avec de l'expérience et du coup, ça lui permet de remonter sur d'autres niveaux et en fait, elle est une meilleure version d'elle-même à chaque fois et c'est ce qui lui permet de gravir tout simplement de nouveaux échelons. Et vous vous rendez compte aussi, je trouve, dans ce qu'elle a dit, que en fait, elle accepte qu'il y a des risques, bien évidemment. Mais je pense qu'elle a compris aussi, Sonia, qu'elle a bien plus à gagner à mettre en place ce qu'elle a imaginé que de ne rien faire et finalement avoir que des regrets de n'avoir rien fait. Donc moi, je trouve que c'est vraiment top. Et moi, je me trouve hyper aligné avec toi. Tu le sais très bien depuis très longtemps puisque on pense à peu près à la même chose sur l'entrepreneuriat, etc. Puis on a un peu un cursus un peu similaire, je trouve, sur certains points. Et on est des purs entrepreneurs, quoi. Des purs créateurs, des purs artistes. On aime créer des choses avec nos mains. On aime ça, en fait, partir de zéro, d'une feuille blanche. C'est ça qui nous plaît. Ouais. Et dès qu'on a atteint le top niveau, en fait, ça y est, c'est le ras-le-bol. On veut passer à autre chose.
Ouais, c'est ça. La vie, enfin, je sais pas toi si ça te fait ça, mais moi, la vie, je trouve vraiment que c'est un terrain de jeu.
Ouais, c'est un terrain de jeu, on est d'accord.
Mais c'est vraiment.
Moi, je veux m'amuser.
Tu crées des choses. Les gens, ils sont pas contents de ça. Ah, ce serait bien s'ils pouvaient faire ça, nana. Et tu crées des concepts qui fait que ça mord ou pas, quoi. Mais c'est marrant, quoi. Tu apportes des solutions à des problématiques. Et moi, je trouve que c'est très, très intéressant et très réjouissant.
On est d'accord. Mais écoute, merci beaucoup Sonia pour cette interview. On va te souhaiter plein de bonnes choses sur 2024, 2025 et que tu prennes ton pied, que ça soit la vraie folie de partout. Et franchement, je pense que voilà, tu vas tout défoncer. J'en suis convaincu. Donc franchement, bravo et plein de bonnes choses pour toi. Merci beaucoup Sonia pour cette interview.
Merci à toi Seb, c'était trop top depuis le temps, je suis trop contente qu'on fasse ce truc là ensemble. C'est toujours drôle de faire ce genre d'interview avec ses amis, c'est drôle.
C'est vrai, c'est qu'on peut le dire qu'on est devenus amis et avec le temps, et on ressort quelque chose de très positif de tout ça. Voilà.
Ouais, complètement.
Merci beaucoup Sonia, très bonne journée.
Merci à toi aussi, ciao.
Ciao.